Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Nous sommes le 11 juin depuis l'UNIMAI. Alors l'UNIMAI, c'est à Genève, c'est un grand bâtiment dans lequel se trouvent différentes facultés. Et nous sommes en compagnie notamment de Mathieu pour le côté suisse. Bonjour ouais. Mathieu.
Bonjour.
Et Lamia Essemlali, qui est la présidente de Sea Shepherd France. Bonjour à toi Lamia.
Bonjour à vous.
Et alors voilà, nous sommes ensemble parce que nous voulions parler de cette campagne Marée Blanche. Alors, marée blanche, qu'est-ce que ça signifie? Tout de suite pour le dire, hein, donc l'image, c'est un oiseau qui est empêtré dans une boue qui est jaune et blanche, qui sont en fait les deux couleurs de la cigarette. Parce que l'idée de cette campagne, c'est de sensibiliser les personnes aux déchets que deviennent les mégots une fois qu'ils sont jetés par terre, jetés dans les égouts, et qui terminent, quoi qu'il en soit, tous, même pour nous qui ne touchons pas un océan, qui via le Rhône, via les égouts, via les pluies, etc., eh bien, finissent très souvent dans les océans, qu'ils polluent énormément. On parle d'un mégot pour 500 litres d'eau. Mais Mathieu va également, puisqu'il est quand même spécialiste de la question, hein, en tout cas pas profane comme moi. Et puis surtout qui empoisonne, enfin pas surtout, mais qui également empoisonne la faune et la flore. C'est bien ça, Lamia?
Oui, c'est ça. En fait, ça découle d'un geste très anodin auquel beaucoup de gens ne pensent pas. Et alors même si c'est plus évident quand on est près de la mer, c'est effectivement aussi un problème, même quand on vit parfois à des centaines de kilomètres de la mer. Parce que c'est amené par les rivières, les fleuves, la pluie, le vent. Et du coup, quand on prend en considération tous les polluants toxiques qui se trouvent dans le mégot de cigarette, donc il y a de l'arsenic, de l'ammoniac, du mercure, pour n'en citer que quelques-uns, en plus du plastique, on multiplie ça par plusieurs milliards. Et ben ça donne en fait une bombe écologique qui tue un nombre incalculable d'animaux et qui pollue des millions et des millions de litres d'eau. Voilà. Et tout ça, ça part d'un geste simple qui est de balancer son mégot de cigarette dans la rue.
Alors qu'il serait tout aussi simple, bien entendu, de ne pas le balancer dans la rue.
Bien sûr, ce serait du bon sens. Mais je pense que... Bon, heureusement, certaines personnes ont quand même le sens civique, le bon sens civique de ne pas le faire, mais force est de constater que de très nombreuses personnes ne l'ont pas. Hein. Il suffit de marcher dans la rue pour voir à quel point les mégots de cigarettes sont nombreux. On a fait une opération pour la Journée mondiale de l'océan. On a ramassé des dizaines de milliers de mégots de cigarettes en quelques heures. Donc voilà, c'est un déchet qui est beaucoup plus toxique et beaucoup plus dangereux que les pailles, par exemple, autour desquelles on fait beaucoup de foin médiatique. Alors c'est bien hein, d'interdire les pailles, mais il faut vraiment qu'on, d'une part, sensibiliser l'opinion là-dessus, que les fumeurs adoptent enfin un comportement responsable par rapport à ça. Et puis il faut légiférer. Donc là, il y a quelques plages qui sont devenues interdites aux cigarettes. Donc je pense que c'est très bien. Hein. On se permet d'interdire des plages aux chiens pour les excréments. Les excréments chiens, a priori, sur le sable, c'est moins toxique que les mégots de cigarettes qui finissent dans l'océan. Donc voilà, il y a une question de logique aussi. Et puis mettre des amendes dissuasives. Je pense que la sensibilisation et la réglementation sont deux aspects très importants et qui se complètent l'un l'autre.
Donc les deux vont de pair.
Faire sans l'un ou l'autre.
Ouais, les deux vont de pair, hein, selon toi.
Oui.
Donc d'un côté la pédagogie et puis d'un autre, eh bien voilà, finalement une loi quoi, d'une certaine manière.
C'est comme pour le code de la route, hein, la sécurité routière. Donc il y a des campagnes de sensibilisation, mettez votre ceinture, ralentissez, pas d'excès, pas d'alcool au volant, voilà. Donc il y a beaucoup de campagnes pour ça, et dans le même temps, en parallèle, il y a des lois avec des amendes, des sanctions, des contrôles pour s'assurer que les gens respectent bien ces règles de bon sens. Et très souvent, malheureusement, en fait, si la réglementation n'accompagne pas la campagne de sensibilisation, souvent le résultat n'est pas au rendez-vous, pas suffisamment en tout cas, parce que là on parle vraiment de milliards de négos. Donc il suffit pas de sensibiliser une petite proportion, il faut que tout le monde change. Mmh. C'est ça qui est très difficile. Ouais. Et vite en plus, donc c'est encore plus difficile.
Alors la campagne, elle s'appelle Marée Blanche, elle a commencé le 8 juin 2019 et on la trouve sur le site www.seashefford.fr. Mathieu, de ton côté, alors quels sont les commentaires que tu as envie de faire là, alors, à brûle pour point?
Oui, alors Lamia, t'as parlé de l'interdiction des pailles. C'est une nouvelle, c'est l'Union européenne, si je me trompe pas, qui a sorti cette loi, cette future loi, qui ce sera en 2020.
Oui, future loi, oui.
Ouais. 2021, 2023, quelque chose comme ça. On va interdire les pailles, les plastiques à usage unique. Et aussi, moi j'ai entendu dire que les cigarettiers, le compagnie de tabac, devront payer pour le traitement, le ramassage et le traitement des mégots de cigarettes, c'est ça? Tu crois que ça va aider au niveau du nombre de mégots qui se trouvent par terre, cette spécificité dans cette loi? Et tu crois que cette loi va pas être modifiée d'ici là? Parce que on les connaît, les lobbies, hein.
Si ça aboutit, effectivement, ça serait du bon sens, ça serait logique que ça passe. Mais effectivement, il y a un lobby très fort derrière ça. Donc, on attend de voir si ça aboutit ou pas.
Quels sont quels sont les principaux maux que causent ces mégots que l'on retrouve dans les océans?
J'ai pas compris la question. Excuse-moi, tu peux répéter?
Oui, bien sûr. Quels sont les principaux maux MAUX, qui sont provoqués par le fait de ce déversement de mégots qui termine dans l'océan?
C'est le principal problème, c'est en dehors du plastique qui est déjà contenu dans les filtres, ce sont tous les polluants, tous les composés chimiques. Donc il y a 4500 substances chimiques, donc 93 qui sont toxiques. Donc voilà, en fait, on envoie des cocktails chimiques toxiques en très grande quantité dans l'environnement marin. Ces mégots, en plus, en plus de polluer l'eau, ils sont aussi ingérés par des animaux. Et du coup, le taux de mortalité, il est difficile à évaluer, mais il y a des expériences qui ont été faites dans un aquarium, par exemple, où on s'est rendu compte qu'un mégot de cigarette aboutissait à la mort de la moitié des poissons contenus dans l'aquarium. Donc l'effet de milliards de mégots dans l'environnement marin, c'est la mort d'un nombre incalculable d'animaux.
Alors cette campagne qui vise donc à sensibiliser les personnes quant à leur comportement, de quelle manière est-ce que vous comptez la propager et as-tu déjà eu des retours? Est-ce que par exemple des mass-médias s'emparent assez facilement de la problématique et est-ce que y a-t-il eu déjà des retours d'associations, de simples citoyens, de fumeuses et de fumeurs?
Alors la campagne a été pas mal reprise sur les réseaux sociaux. Les gens réagissent aussi pas mal au niveau des médias. Donc on a fait quelques plateaux télé sur lesquels l'image a été présentée. On a eu aussi un geste commercial d'affichage de co qui nous a permis de diffuser la campagne à Paris essentiellement. Après elle est toute nouvelle et c'est pas une campagne qui va se limiter forcément autour de la journée de l'océan. Là c'était le lancement, mais l'objectif c'est qu'elle vive sur la durée, que les gens s'en emparent. Le visuel est assez beau et assez parlant, donc je pense que ça aide aussi à la propagation du message. L'agence qui a travaillé dessus a fait vraiment un excellent travail, je trouve. Et du coup, on espère que ça permettra de véhiculer de manière d'autant plus forte et d'autant plus efficace le message. Après, on verra dans le temps les partenariats possibles, éventuellement avec certaines mairies, certaines organisations pour lui donner encore plus d'écho.
D'accord. Est-ce qu'en France, c'est comme en Suisse? C'est-à-dire que la situation en Suisse, elle est simple. Il y a par exemple des arrêts de bus, mais Mathieu va pouvoir te le dire, parce qu'il va peut-être, Mathieu, si tu voudrais nous dire ensuite quel type d'action vous avez récemment mené ici à Genève. Mais par exemple, ici, un arrêt de bus qui sont munis de cendriers, eh bien, on voit des gens vraiment... On voit déjà des mégots partout, autour, par terre, et puis des gens qui vraiment... comment dire, contournent les cendriers pour terminer par les envoyer par terre. Est-ce que la situation est un peu la même en France ?
Alors, nous, on a même pas de cendriers aux arrêts de bus, pas à ma connaissance en tout cas. Maintenant, très clairement, on retrouve des mégots de cigarettes absolument partout. Partout sur les trottoirs, dans les sous les arbres, en fait. Il y a des gens qui pensent que la terre au pied des arbres c'est un cendrier. Aux terrasses de café, enfin, c'est vraiment un fléau qu'on retrouve à tous les coins de rue.
Et est-ce qu'on observe quand même une prise de conscience par rapport à ça, d'ores et déjà, ou c'est bien pour ça, bien entendu, que c'est, je comprends bien qu'il est urgent de mener campagne, justement, mais est-ce que selon toi, on observe quand même, ou tu as pu, toi, déjà observer des changements de comportement, ou en tout cas une forme de, on est un peu, c'est un peu dans l'air du temps que de faire attention à la nature qui nous entoure?
Alors, bah, il y a des gens de plus en plus, hein, qui utilisent des cendriers de poche, voilà, qui ont compris, mais en fait, il suffit de jeter un œil sur les trottoirs pour voir que le problème est encore colossal. Voilà, c'est un très bon indicateur, malheureusement. Je vous disais, samedi dernier, donc il y a deux jours, en quelques heures, ce sont des dizaines de milliers de mégots qui ont été ramassés par nos bénévoles. Donc, il n'y a pas besoin de les chercher bien loin, ces mégots, pour les trouver en quantité astronomique. Donc, ça donne une idée de toute la marge de progression qui reste à faire.
Oui, absolument. Alors Mathieu, justement, voudrais-tu nous dire une des différentes actions que vous menez ici à Genève ?
Alors nous notre projet il a commencé à partir d'une prise de conscience écologique et d'un désir de vouloir faire changer les choses à notre niveau. Et on s'est dit que le mégot de cigarette c'était un bon moyen. Parce que moi je suis étudiant en biologie et la préservation de la biodiversité c'est quand même un truc qui me tient à cœur. Parce que je sais à quel point elle diminue et à quel point c'est fragile et important, une espèce quoi. Alors, mais du coup, les mégots de cigarettes, on s'est intéressé à ça. Et en Suisse, les gens ont tendance à dire que c'est propre, mais je trouve pas du tout. Ça représente quand même 37% à peu près de d'achats urbains. Les mégots de cigarettes, il y en a absolument partout. Nous, on organise des actions de ramassage de mégots, comme a fait Sea Shepherd, un peu partout dans le monde, je crois, ou juste en France, je sais pas. Mais la mienne nous dira. Alors on organise ces actions de ramassage, et je me suis aussi rendu compte que les fumeurs ont tendance à les jeter un peu n'importe où, et surtout dans les endroits... Enfin, peut-être qu'ils s'accumulent là, parce qu'ils sont pas ramassés par la voirie, mais... Oui, là, dans les arbres, enfin au pied des arbres, dans plein d'interstices, de dalles, et ça finit souvent quand on soulève une grille d'évacuation des eaux, on va en trouver genre une centaine, quoi. C'est tout finit là, et ça finit dans nos rivières et dans fleuves, et ces fleuves et ces rivières finissent dans les océans.
Eh oui.
Triste.
Alors, il faut également dire que c'est déjà un projet qui traverse les frontières, nommé Gotpage. Là, je dis pour Mathieu ici à Genève, puisque vous les recyclez et pour les recycler, vous avez contacté des gens à Grenoble.
Alors oui,
ça viendra après. Donc la question qui suivra après pour la mienne, c'est ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de ces mégots ? Mais je te laisse répondre.
Et nous, on fait des actions de ramassage et on a des cendriers de vote. Enfin, on a essayé plein de choses pour rendre le truc ludique. Et on a contacté une entreprise qui s'appelle Mego. J'avais vu un documentaire sur Arte à propos de cette start-up, un petit sujet sur Arte, où ils expliquaient que ces mégots, ils étaient lavés en circuit fermé, dépollués, et ils étaient compressés à haute pression, haute température pour en faire du mobilier urbain. On a trouvé ça chouette que les mégots qu'on ramasse soient pas juste brûlés dans une usine d'incinération et qu'ils aient une seconde vie sous la forme d'un... Nous, on veut en faire un tabouret parce qu'on trouve ça amusant. Et ouais, alors je sais pas ce que je veux faire si je parle de leur mégot, mais nous on trouve ça cool. Après on s'est posé la question du bilan carbone, mais on s'est dit que juste pour une action c'est ponctuel et c'est symbolique, c'est plus pour le symbole que pour ouais.
D'accord. Alors là, Mia, qu'est-ce que t'inspire ces observations ? Est-ce que effectivement, il faut considérer que ce déchet doit être évidemment pas jeté dans l'eau, mais jeté dans une poubelle, ou est-ce qu'on peut le recycler ? Quelle est la position de Sea Shepherd par rapport à ça ?
Alors, ben, je sais pas, je suis pas spécialiste du recyclage de substances chimiques qui peuvent être toxiques. Je sais pas quels peuvent être les effets. Je pense qu'il serait effectivement de la responsabilité des fabricants de cigarettes de gérer ce problème-là sans leur laisser non plus le champ décisionnel complètement libre. Il faudrait travailler avec des chimistes pour voir ce qu'on peut en faire pour réduire l'impact du recyclage de ces matériaux. Donc voilà, pourquoi pas en faire du mobilier urbain, mais encore une fois, je me pose la question aussi de savoir ce que ça peut donner avec toutes les substances chimiques que ça contient.
En fait, l'idée, ce serait presque de prôner d'une certaine manière l'abstinence, ou en tout cas, disons, la réduction de la consommation.
Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas.
Et voilà. Complètement, ça c'est évident. Le meilleur déchet, c'est toujours celui qu'on ne produit pas, parce que le recyclage demande de l'énergie, il n'est pas éternel. Hein. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre tabouret en mec de cigarette, il est plus recyclable une deuxième fois. C'est comme le plastique, hein. On peut recycler le plastique qu'une seule fois.
Ouais.
Donc voilà, on ne fait que gagner du temps et repousser l'échéance. Donc ne pas le produire, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai lu certaines études aussi sur parce que ce qui pose problème particulièrement, c'est le filtre, bien plus que la cigarette en elle-même. Ce que j'ai pu en lire, c'est que même l'efficacité du filtre est remise en question.
Se
pencher aussi là-dessus. Est-ce que finalement on produit pas tout ça en plus pour des raisons qui finalement ne sont même pas valables. Il faudrait aussi réfléchir sur ce point-là, mais encore une fois, évidemment, on en revient à cette évidence, c'est que le mieux, c'est de ne pas les produire.
Est-ce que c'est extrêmement dur de se battre contre tous ces gigantesques lobbies des cigarettiers qui écument, qui essaiment un peu partout et qui ont accès peut-être beaucoup plus facilement à une communication de masse et à des relais et peut-être, si j'ai bien compris, même si j'ai bien lu quelques papiers, qui font d'une certaine manière de la recherche dans leur côté, peut-être en orientant quelques informations?
Bah bien sûr, puisque c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs pendant des années pour essayer de semer le doute sur notamment le lien entre le fait de fumer et de développer des cancers. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont remis en question grâce justement à leurs scientifiques et à leur pouvoir de lobbying. Donc ils ont un pouvoir qui est colossal sur le pouvoir politique et donc c'est très compliqué. Nous là à l'heure actuelle on s'attaque même pas à ça. On essaye surtout de parler à ceux qui sont en bout de chaîne, c'est-à-dire aux fumeurs.
Ouais. Donc en fait c'est ça, on gagne ce combat en touchant à la base aux consommatrices et aux consommateurs directement.
Alors je sais pas si on le gagne, honnêtement je sais pas, je sais que c'est un combat qu'il faut mener et il faut se battre et jusqu'au bout, à savoir si on va le gagner, moi j'en suis même pas certaine parce que l'ampleur de la tâche elle est énorme. Voilà, comme je disais là, c'est des milliards qui finissent dans l'océan. On est très 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 loin quand même d'une prise de conscience massive et générale suffisamment importante pour que la change donne, donc pour que la donne change, pardon. et donc voilà, c'est un véritable challenge. Je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, c'est pas facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas tout faire pour y arriver. Donc voilà, est-ce qu'on va gagner le combat? Je sais pas. Est-ce qu'il faut le mener? Oui, certainement.
Est-ce qu'on peut dire que la situation est délicate en Europe et elle peut l'être carrément, elle est peut-être même déjà tragique dans certains lieux géographiques?
Elle est tragique au niveau planétaire. Hein. Là, vraiment, on a fait de la planète un petit village. Donc, tout ça est très lié, très connecté. Les pollutions des uns sont renvoyées chez les autres.
Donc il nous faudrait des...
Il n'y a pas de frontières, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Il nous faudrait, d'une certaine manière, des lois transversales ou une prise de conscience complètement transversale pour pouvoir...
Alors oui, mais surtout, il ne faut pas attendre que tout le monde s'y mette pour s'y mettre, parce que c'est ça le piège aussi. Donc il faut avoir valeur d'exemple. Et c'est vrai que, par exemple, on a lu pas mal de choses sur le fait que 90% de la pollution dans l'océan viendrait de fleuves... En Asie et en Afrique, et on oublie de dire qu'en fait, nous, on envoie nos déchets plastiques se faire retraiter là-bas. Donc, c'est voilà, la responsabilité, elle est partagée. Ceux qui consomment le plus, c'est de toute évidence les pays développés. Dans les pays en voie de développement, il y a une problématique aussi, mais ils récupèrent aussi nos déchets. Donc, on peut pas s'en décharger sur eux. Donc, c'est en ça que ceux qui ont les moyens de prendre les mesures devraient être les premiers à les prendre. Et ce sont les pays développés.
En tout cas, à nous de faire également pression sur ces lobbies, sur nos politiques, pour qu'effectivement des décisions radicales soient prises urgemment, en fait. Selon toi, est-ce que la vapoteuse, la cigarette électronique, ça peut faire partie des solutions? Ou ça n'est qu'un leurre, une chimère?
Je suis pas sûre que, écologiquement parlant, ce soit meilleur. Hein. Faut voir en termes de fabrication et pareil de déchets, le déchet que ça, que ça peut représenter. Hein, c'est pas de la matière organique, biologique et compostable. Donc ouais. Voilà, on n'a pas le recul suffisant par rapport aux mégots de cigarettes, mais. Ça ne me semble pas être la solution miracle, en tout cas, non.
Oui, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'y connais rien. Je ne sais pas, Mathieu, toi, tu sais quelque chose concernant les cigarettes électroniques? Est-ce que...
Alors...
C'est vrai qu'entre les composants, entre la substance que l'on met à l'intérieur...
Ouais. Alors, il y a deux types de... Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait deux types de cigarettes électroniques. Il y avait les cigarettes normales qui... Tu mets une substance dans du coton et ça chauffe le coton, et cette substance tu la vapotes, ouais. Et ça crée pas vraiment de déchets, à part le fait d'acheter cette cigarette électronique et de faire ton petit mélange de produits toxiques à fumer. Sinon, il y a c'est un truc que Philip Morris a sorti, les IQOS, là, les IQOS. Et ça crée des et ça j'en retrouve plein pendant mes actions de ramassage. Ça parce qu'ils font des recharges plastiques prête à l'emploi, à usage unique.
Qu'on jette ensuite.
On fume, et après avoir fumé une journée, on jette sa recharge IQOS par terre. Et ça, j'en ai retrouvé plein. Et ça, c'est pas du tout recyclable. Ça, c'est vraiment du plastique pur, pur et dur. Hein.
Ouais, d'accord.
Mais ça, typiquement, ça devrait être interdit aujourd'hui. Enfin, c'est hallucinant.
Ouais. C'est sorti il y a deux ans, ce truc.
Le lancement de ce genre de projet.
On observe, en tout cas en France, en tout cas en Suisse, que c'est soit la contrainte, soit ça ne change pas concernant les lobbies du tabac, les lobbies des cigarettes.
Mais je pense que malheureusement, c'est le cas pour beaucoup de choses dès lors qu'on essaye de restreindre un tant soit peu les libertés. C'est comme pour la limitation de vitesse. Vous voyez, si on disait, bon, ça serait bien que vous ne rouliez pas au-dessus de 110 km/h, mais qu'en fait, il n'y a pas de loi, et il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de sanction. Vous pouvez être certain que on dépasse tous les 110 km/h, on est un peu pressé, on y va. Hein. Donc la réglementation, elle est indispensable. Et même si ça peut être perçu comme une restriction de liberté personnelle, en fait, c'est plus de liberté et de bien-être pour tous. Donc c'est indispensable, c'est ça qui nous permet de vivre ensemble.
C'est dur quand même de se dire qu'effectivement, faire appel à la au sens commun, à la conscience, eh bien, ne suffit pas à changer les choses.
Ah oui, mais je pense qu'il faut faire son deuil, malheureusement, de de cette idée que on est capable de tous se raisonner à titre individuel, et je jette la pierre à personne, hein. Je m'inclus là-dedans. Je pense que malheureusement, on est tous à divers degrés, en tout cas, et dans divers domaines très faibles à ce niveau-là, et il y a un degré d'individualisme qui est très important, et si on veut pouvoir vivre ensemble, alors il faut sensibiliser, parce que c'est bien quand les gens comprennent, c'est toujours mieux qu'ils comprennent. Mais si il n'y a pas le législatif derrière pour mettre un cadre légal, on n'y arrive pas.
Lamia Essemlali, présidente de Six Sheffard France, je te remercie d'ores et déjà de nous avoir consacré ces quelques minutes. Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux questions?
Je vous en prie.
Ah bah c'est super. Alors encore une ou deux petites questions concernant la suite des événements. Alors cette campagne, on l'a dit, elle a commencé le 8 juin. Donc campagne Marée Blanche, qui va faire l'objet d'une campagne printée. Donc il y a effectivement ce visuel qui est extrêmement parlant, hein, donc de cet oiseau qui est empêtré dans ses bouts aux couleurs de la cigarette, donc avec un petit bout de jaune et un grand bout de blanc, empêtré comme dans du pétrole, hein, pour vraiment bien montrer que c'est une pollution qui est au moins aussi néfaste et nombreuse que celle qui est causée par les hydrocarbures.
Par les marées noires, oui, qui est beaucoup moins visible, plus insidieuse que la marée noire, mais qui peut causer les mêmes effets, voire pire.
Alors là, il y a ce premier aspect, sortir de l'invisibilisation. Et ensuite, y a-t-il déjà quelque chose qui vous habite à Sea Shepherd en France pour la suite des événements? Est-ce que d'autres actions seraient entreprises? Est-ce que
nous on va très certainement multiplier les nettoyages, communiquer à chaque fois dessus. On a beaucoup d'événements, beaucoup de stands sur lesquels ce visuel sera mis en avant et le discours va passer sur cette question-là. Voilà, là c'est vraiment la sensibilisation pure, tout en espérant qu'en parallèle il y ait la législation qui suive.
www.seashepherd.fr, ça c'est le site internet. Dis-moi, qu'en est-il de la culture du tabac? Est-ce qu'on en dirait quelques mots? Parce que semble-t-il que cette culture est notamment extrêmement gourmande en eau, mais qu'elle produit également par l'usage de pesticides là où c'est le cas, eh bien, en plus, un problème de pollution de nappe phréatique. Voilà, ça c'est également quelque chose sur lequel, un des leviers sur lequel on pourrait appuyer, de dire voilà que cette culture...
Tout à fait. Bon, nous, c'est pas un aspect qu'on a mis en avant, mais tu as tout à fait raison de le mentionner parce que ça a aussi un impact important, comme tout ce qui est énorme monoculture de masse, pesticidés et effectivement gourmand dans l'eau. Donc, ça a aussi un coût écologique rien que sur la fabrication du tabac qui est très important et qui est à mettre sur l'addition de la toxicité pour la planète de la cigarette.
Ouais.
Et on est des milliards à fumer. Donc,
voilà. C'est ça. Et je ne sais pas si les chiffres des fumeuses et des fumeurs sont en croissance, en augmentation ou pas. Mathieu, toi, tu sais quelque chose?
Moi, je sais que dans les pays occidentaux, dits développés, même si on n'est pas tous d'accord par rapport à cette appellation, c'est en réduction. Par exemple, en Europe, à cause des politiques de santé des pays européens, globalement c'est en diminution, mais c'est en forte augmentation dans les pays dits développés parce que les cigarettiers ont cherché à trouver d'autres sources de revenus, à vendre leurs cigarettes ailleurs, comme au Maroc où la plupart des cigarettes marocaines sont suisses, parce qu'on produit énormément de cigarettes en Suisse. Enfin, il y a les trois plus grandes sociétés de tabac sont en Suisse, ça faut le savoir. Et on produit du tabac en Suisse.
Japan Tobacco notamment, c'est ça?
Alors, Japan International Tobacco, British American Tobacco et Philip Morris International.
Tout ça, c'est en Suisse.
Tous leurs sièges internationaux, ces trois sont en Suisse.
Tu vois, Lamia, pourquoi pour nous, c'est toujours extrêmement, extrêmement pertinent et toujours salutaire de vous entendre, de vous voir agir en France. Parce qu'ici, c'est encore plus invisibilisé d'une certaine manière.
Oui.
Alors que c'est un pays qui contient des lieux de décision et puis des recoins comme ça, discrets, mais terrible.
Ouais, c'est stratégique.
Et très décisionnaire, quoi. Ouais, c'est ça. Concernant, alors, pour en terminer, on va doucement arriver à la fin de cet entretien, mais j'aurais encore voulu t'entendre sur les cigarettes de contrebande, parce que j'ai là aussi lu ici et là que de plus en plus de cigarettes de contrebande, notamment, voyageaient de pays justement lointains, des antipodes jusqu'à la Suisse, la France, et que, eh bien, ces cigarettes-là étaient encore plus nocives et encore plus polluantes. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est ce que j'ai pu lire aussi. Ça semble assez logique en fait, puisque ce sont des cigarettes de moins bonne qualité, plus bas de gamme, et donc oui, encore plus toxiques. J'ai entendu là récemment un contrebandier qui a été arrêté avec je sais plus combien de tonnes de cigarettes dans un conteneur, qui a écopé d'une amende de 2 millions d'euros. C'est colossal, mais ça montre aussi le pouvoir du lobby des cigarettiers, hein, parce que quand on est pris avec, enfin, pour braconnage ou pour trafic de faune sauvage ou d'animaux protégés, on prend pas le millième de cette amende. Donc c'est là aussi que ça montre un peu le pouvoir des cigarettiers qui lutte contre la contrebande, hein, puisque c'est un manque à gagner pour eux.
Mais qui les produit, ces cigarettes? Est-ce que Lamia, est-ce que toi tu le sais, ou est-ce que Mathieu, toi tu le sais au bout du compte? Parce qu'il faut bien qu'il y ait, si on a tellement, il faut bien que ce soit des industriels d'une certaine manière. Comment sont-elles produites? Est-ce que quelqu'un sait? Mathieu, toi, tu aurais un élément de réponse ?
Moi, j'ai aucune idée, mais... enfin, si, il y a peut-être les... mais elles viennent d'autres pays, c'est les producteurs, c'est les mêmes producteurs, mais elles viennent d'autres pays. Parce que je sais que la qualité des cigarettes varie entre les pays. Par exemple, okay. La Suisse produit plusieurs qualités de cigarettes et elle produit des cigarettes qui ne seraient jamais vendues en Suisse, mais elle les exporte. Oh,
mais quelle horreur!
Ouais, ça, c'est une étude de Public Eye Watch.
Public Eye,
qui a sorti une étude sur les cigarettes et montré que les cigarettiers suisses produisaient des cigarettes plus nocives pour les pays. Enfin, plus addictives, qui contiennent plus de nicotine, à des taux trop élevés pour la Suisse, et ils les envoient
dans un souci
au Maroc. Ouais.
Et ça, c'est dans un souci d'économie, enfin, c'est-à-dire de faire plus d'argent
ouais,
et
de faire
rendre
plus
les
d'argent,
gens
ouais, de plus, faire plus d'argent, ouais.
Et de rendre les gens ouais, plus dépendants.
Ouais,
quoi.
Ouais.
Et ce type de pratique existe en France, crois-tu, Lamia ?
Alors, je sais qu'on a beaucoup de cigarettes de contrebande en France. Hein. Moi, j'en vois souvent qui les vendent à la sauvette. Je ne sais pas du tout d'où elles viennent, par contre.
D'accord.
Mais ce que tu dis, Mathieu, ça me semble faire sens, hein, malheureusement.
Ouais.
L'exportation de produits nocifs et bas de gamme à des pays où on est moins regardant, où on a moins de moyens, c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs secteurs. Donc,
mais tu penses qu'on pourrait imaginer pousser le vice jusqu'au fait que voilà, ces grands lobbies de cigarettes en produisent également d'autres à dessein, c'est-à-dire en se disant, voilà, on va les vendre là-bas, et puis si elles reviennent en contrebande, eh ben, on s'en fiche. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du domaine du possible ou là, vraiment, j'exagère ?
Non, moi, ça me surprendrait pas plus que ça, ouais. Franchement.
En tout cas, bon, ce qui serait intéressant...
Quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire, pour faire, comment dire... reculer toute la communication autour du cancer lié à la cigarette. Enfin, on
ben
parlait
oui,
quand
ça.
Même de millions de vies. Hein. Donc, il n'y a pas trop de morale hein, dans tout ça.
Ouais. En tout cas, ce serait intéressant de rechercher un petit peu et puis effectivement de débusquer le fin mot de l'affaire. Parce que si effectivement c'était le cas, clairement, là, je pense qu'on avancerait quand même en termes, en tout cas, d'opinion publique. Et j'imagine que là, les médias mainstream ne pourraient plus, tergiverser, quoi.
Je pense que c'est une piste intéressante, effectivement, à creuser.
Y a-t-il, maintenant que Sea Shepherd, effectivement, promeut et mène cette campagne, de futurs partenariats, de futures ONG qui vous rejoindraient, avec lesquelles on pourrait faire une énorme chambre de résonance ?
Pourquoi pas ? Moi, je pense que c'est un sujet qui peut être assez facilement fédérateur. Ça concerne énormément de gens. C'est un message qui, à mon sens, est quand même très très audible. Donc, pourquoi pas, hein. Il y a d'autres associations aussi qui sensibilisent sur le sujet. Nous, bon, ça fait longtemps qu'on ramasse des mégots de cigarettes, mais c'est vrai que cette campagne et ce visuel-là ont eu l'avantage de vraiment catalyser l'attention là-dessus. Mais après, sur le long terme, pourquoi pas travailler avec d'autres pour diffuser encore plus fort le message.
En tout cas, l'appel est lancé.
Et cette campagne, au fait, est-ce qu'elle est internationale ? C'est quand même important que ce soit global, quoi.
Ah oui, bien sûr. Oui, elle a été traduite en de multiples langues. Il y a plusieurs antennes de Sea Shepherd qui l'ont relayée, chacun dans sa langue. Bon, c'est une problématique qui est mondiale, hein, donc c'est important que ce soit relayé en dehors de la France et pas qu'en France, bien sûr.
Alors c'est la Marée Blanche hein, qui est une campagne de Sea Shepherd, seashepherd.fr, une campagne qui vise à dénoncer les milliards de cigarettes qui polluent les océans, lancée le 8 juin 2019 à l'occasion, je crois que c'était la journée des océans, c'était le 5 juin, c'est ça ?
Le 8.
C'est le 8 juin.
Ah, pardon.
Le 8 juin.
Donc c'est le même jour que là, oui, j'ai mal lu. Et donc voilà, à partir du 8 juin, donc cette campagne à court, on la retrouve sur le site internet www.seashepherd.fr. On rappelle que tous ces mégots qui terminent dans les lacs également pour nous, puisque nous, on a un lac ici, le lac Léman, dans les océans, etc., et bien contiennent des composants chimiques extrêmement toxiques, qui sont à l'origine de l'acidification des océans et un facteur extrêmement grave de mortalité pour les espèces marines.
D'ailleurs, j'aimerais ajouter qu'on a, on a quand même un groupe de bénévoles en Suisse romande qui a mené une opération de ramassage de mégots le 8 juin, en même temps que les groupes français.
Très bien. Et peut-on...
Trop bien, je ouais, pas.
Non, bah non, justement, on peut les contacter de quelle manière?
Ouais.
Il y a une page Facebook si j'ai peur de Switzerland.
Okay. Ok. Via la page Facebook.
Ouais.
Si Shepard.Switzerland.
Switzerland, ouais.
Ok. Puis peut-être un dernier chiffre pour rappeler quelle horreur c'est de jeter son mégot par terre, c'est un mégot 500 litres.
500 litres d'eau. Il y a même des études qui vont plus loin, qui vont jusqu'à 1000 litres d'eau. Hein.
C'est, oui, jusqu'à 1000 litres d'eau, ouais. 500 litres, c'est vraiment la
c'est plancher. Ben voilà, ouais. Ça, on va terminer là-dessus si ça vous va tous les deux.
Merci, ouais.
Merci
ouais.
beaucoup, Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France.
Merci
beaucoup,
Lamia.
Mathieu qui donc s'occupe Merci de nos mégots de pas ici à l'Université de Genève. On en a déjà parlé et le ouais. podcast sera mis au libellé de cette interview parce que c'était extrêmement intéressant de voir qu'à Genève, il y a aussi des comportements que l'on pourrait changer. Et voilà, de populations dont on ne s'attendrait peut-être pas. Merci beaucoup, Lamia, et à bientôt alors.
Merci encore, avec grand plaisir. À
avec
bientôt.
Merci, au revoir.
Libre Radio, la radio qui aime trop, les keufs, les schmitts et la volaille. www.libradio.org